Voici les deux textes liturgiques donc pour ce quatrième dimanche de carême, l'épître de saint Paul aux Galates. Mes frères, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ceci a été dit par allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une sur le mont Sina, qui enfante pour la servitude, et c'est Agar, car Sina est une montagne d'Arabie qui correspond à la Jérusalem d'à présent, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle, et qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi, stérile, qui n'enfante pas, éclate, pousse des cris de joie, toi qui ne deviens pas mère, parce que les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Pour nous, mes frères, nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point les enfants de l'esclave, mais de la femme libre, et c'est le Christ qui nous a acquis cette liberté. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une multitude nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta donc sur une montagne, et là il s'assit avec ses disciples. La Pâque, jour de fête des Juifs, était proche. Ayant donc levé les yeux, voyant qu'une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « De 100 deniers de pain ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour tant de monde ?» Jésus dit alors, « Faites asseoir ces hommes. » Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit alors les pains, ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, leur donna de même des poissons, tant qu'ils en voulaient. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour qu'ils ne se perdent pas. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant donc vu le miracle qu'avait fait Jésus, disaient, « Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Asseyez-vous. Donc, je vous rappelle qu'il y a encore des places pour les retraites. Vous avez les dates de retraite sur le site internet. Je vous rappelle ces dates. 29 mars, le 4 avril, 26 avril, le 1er mai, 7 juin, 12 juin, 13 septembre, 18 septembre et 18 octobre au 23 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche qu'on appelle dimanche létaré, à cause des premiers mots de l'introïde d'aujourd'hui. Létaré, le mot Laetitia vient de là, c'est la joie. Réjouissons-nous. Ça semble un peu bizarre, plein carême. Pourquoi est-ce que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de réjouissance et de joie en carême? Pour marquer cette joie, aujourd'hui le prêtre revêt des vêtements roses. On a le droit de le faire deux fois par an simplement. En mi-carême, dimanche c'est taré. Et en milieu du temps de l'Avent, avant la fête de Noël, on appelle le dimanche Gaudete. Gaudia, c'est la joie aussi, donc c'est un peu deux mots synonymes. Et non seulement on a le droit de mettre les vêtements roses aujourd'hui, mais également on a le droit d'avoir les fleurs sur l'autel, exceptionnellement. Avant, au Moyen-Âge, un siècle de foi, on fêtait cette mi-carême, on appelait ça la mi-carême. Il y avait souvent des jeux organisés pour les enfants. Dans les paroisses, c'était une espèce de temps de relâche au milieu du carême pour nous encourager à bien faire la deuxième partie du carême. Alors, qu'est-ce que nous dit la Sainte Église? Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que vous étiez dans la tristesse. Mais maintenant, nous dit le texte sacré, il va falloir vous rassasier par l'abondance des consolations. L'abondance des consolations. Alors pourquoi cette double mesure? Nous étions dans la tristesse et nous allons maintenant dans le temps des consolations. Alors que nous sommes en plein carême. Et parce que nous arrivons au milieu du carême, la route commence à monter vers le calvaire. Donc on lève les yeux et on voit le calvaire, le lieu de la passion. Vous me dites, mais monsieur l'abbé, la passion, le calvaire, c'est pas très amusant ça. Oui, mais au sommet du calvaire, il y a la croix. L'abbé, c'est encore moins amusant la croix. Oui, mais la croix, elle mène à la résurrection. Alors ça, c'est la joie qui arrive. Et la résurrection, elle mène 40 jours après à la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel par l'ascension. Notre Seigneur monte au ciel et rouvre les portes du paradis qui étaient fermées par la prévarication d'Adam et Ève, le premier péché d'Adam et Ève. Et donc le carême mène au temps de la résurrection et au ciel. Donc les pénitences du carême, la tristesse, nous amènent à la joie de la résurrection. Donc le carême en tant que tel, c'est la tristesse parce que ça rappelle le péché d'Adam et Ève, et puis tous les péchés qui ont suivi Adam, le péché d'Adam et Ève. Et la joie, l'allégresse de ce dimanche cet arrêt nous amène à une autre chose magnifique, le pardon des péchés. Donc si le péché est quelque chose de triste, le pardon des péchés est quelque chose de très joyeux. C'est que les pères de l'Église expliquent, et c'est magnifique, beaucoup en parlent, que la plus belle chose que le bon Dieu ait jamais faite, la plus grande joie du bon Dieu, c'est de pardonner aux pécheurs repentants. Parce qu'en soi, le pardon des péchés est quelque chose de plus glorieux encore que la création du ciel et de la terre. Donc la tristesse du péché, à cause du mystère de l'incarnation, de la rédemption, amène au pardon des péchés. Et si notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, s'attriste du péché des hommes, il ne peut que se réjouir du pardon de ses péchés. Et c'est tellement important que l'Église a même utilisé une des phrases les plus étonnantes qu'on puisse trouver dans la liturgie. Cette phrase, on va la voir pendant la vigile pascale. Pendant la vigile pascale, ce qu'on appelle le chant d'exultète. Le chant d'exultète, c'est le long chant que le prêtre va chanter juste après la bénédiction du feu et du cierge pascal. Et dans cette grande prière qu'on appelle l'exultète, eh bien, il y a cette phrase « O felix culpa ». Ô faute bienheureuse. Bon, ça, c'est la totale. Faute bienheureuse. Comment l'Église peut-elle dire une faute bienheureuse? De quelle faute l'Église parle-t-elle? C'est la faute d'Adam et Ève. Ô faute bienheureuse qui nous a valu un tel rédempteur. Et grâce à la faute d'Adam et Ève, on a eu l'incarnation. Et comme l'incarnation est provoquée par la faute, s'il n'y avait pas eu la faute, il n'y aurait pas eu l'incarnation. C'est ce qu'enseigne saint Thomas d'Aquin. Les franciscains disent, de toute façon, il y aurait sans doute eu l'incarnation, parce que l'incarnation, c'est la création la plus belle chose que le bon Dieu ait jamais créée. La plus belle chose que le bon Dieu ait jamais créée, c'est l'âme et le corps de son Fils. L'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un corps uni à la divinité, une âme unie à la divinité. Quoi qu'il en soit, on fait l'exculpa, c'est-à-dire, ô faute bienheureuse. Grâce à la faute d'Adam et Ève, notre Seigneur Jésus-Christ a dû s'incarner, prendre notre chair humaine pour subir la passion, ressusciter d'entre les morts et monter aux cieux et nous rouvrir les portes du paradis. Et on voit également cette double chose, c'est-à-dire à la fois la tristesse et à la fois la joie, même à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Encore un mystère insondable. Même au pire moment de la passion, même dans les souffrances et les tortures épouvantables de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, même quand il était en train de souffrir sur la croix avant sa mort, on avait 3 heures d'agonie sur la croix, entre midi et 3 heures de l'après-midi, le vendredi saint, bien notre Seigneur Jésus-Christ avait la vision béatifique. Une chose incroyable. Notre Seigneur Jésus-Christ, même quand il meurt sur la croix, est toujours Dieu, attention. Son corps est toujours uni à sa divinité, son âme est toujours unie à sa divinité. C'est pour cela que même après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque les disciples vont aller placer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, ce corps est toujours uni à la divinité et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est séparée du corps puisqu'il est vraiment mort, cette âme unie à la divinité, pouvoir descendre dans les limbes, l'âme des patriarches, pour libérer tous les justes de l'Ancien Testament qui attendaient depuis parfois des milliers d'années l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ces choses sont belles, et ceci doit nous donner une espérance extraordinaire. Que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la tristesse. Le péché, c'est la laideur. Le péché, c'est l'obscurité, c'est la confusion. Toutes ces choses. Et le pardon du péché, c'est quoi? C'est tout le contraire. Le pardon du péché apporte avec lui la joie, la paix, la lumière. La beauté. Et donc, si nous étions dans le péché, il nous faut sortir du péché, c'est tout le carême, sortir du péché pour maintenant aller accueillir notre Seigneur Jésus-Christ avec le pardon des péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ vient nous offrir sur un plateau, littéralement, le pardon de nos péchés. Évidemment, il faut comprendre ce don de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas croire qu'on peut prendre comme ça le pardon des péchés comme on prend quelque chose sur un plateau. Il y a des conditions pour pouvoir utiliser ce pardon des péchés. Pouvoir utiliser ce pardon des péchés, c'est évident qu'il faut le regretter. Quelqu'un qui ne regrette pas ses péchés ne peut pas être pardonné. Donc il faut l'accusation, il faut la contrition, le regret de ses péchés, puis il faut la réparation. Les trois conditions pour faire une bonne confession. Et à ce moment-là, on peut utiliser la joie de Pâques qui déjà est annoncée, est anticipée avec ce dimanche des tarés. Et comme il y a déjà là énormément de choses. Et dans l'oraison, la collecte d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui est répétée. La collecte nous dit que nous avions mérité, à cause de notre situation actuelle, nous avions mérité l'affliction à cause de nos péchés. Eh bien, nous pouvons maintenant, par la grâce du bon Dieu, demander la joie et la consolation. La joie et la consolation. Et Dieu sait s'il faut méditer sur ces paroles aujourd'hui plus que jamais. Parler de consolation en 2021, alors qu'on va tout s'écrouler autour de nous. Tout s'écroule autour de nous, c'est vrai, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan familial. Mais notre Seigneur, lui, ne s'écroule pas. L'Église ne s'écroule pas. Parce que l'Église a les promesses de la vie éternelle. Et même si, malheureusement, beaucoup d'hommes d'Église, à commencer par les autorités qui se prétendent officielles à Rome, sont en train de tout détruire, notre Seigneur Jésus-Christ est indestructible. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne justement cette espérance. C'est ça le carême. C'est l'espoir d'une victoire. On a un long combat à faire, mais nous savons de façon certaine que nous aurons la victoire avec la grâce du bon Dieu. Pas tout seul, mais avec la grâce du bon Dieu. Et cette espérance doit nous donner une joie extraordinaire. C'était la joie, par exemple, des martyrs qui allaient au casse-pipe, qui allaient se faire dévorer par les lions, tout plein de joie. Alors, les païens ne comprennent rien du tout. Ils vont se faire dévorer tout cru par les tigres, les léopards et les lions, et ils sont tous joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, nous allons évidemment avoir passé par les souffrances terribles, mais après, c'est la résurrection qui nous attend. De même que le bon Dieu est ressuscité d'entre les morts dans l'humanité de son divin Fils, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous aussi nous ressuscitions d'entre les morts. Et donc, cette pagaille qui règne en France aujourd'hui, qui est certainement un des pays les plus touchés par la Révolution, eh bien, cette pagaille doit nous amener à nous appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ encore plus, puisque nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique personne qui ne nous décevra jamais. Parce qu'il est Dieu. Et que son Église est toujours divine, même aujourd'hui. Et plus que jamais aujourd'hui. Bon, il ne faut pas oublier l'avertissement de notre Seigneur. À la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait, si je trouverai encore la foi. Il ne faut pas oublier aussi un deuxième avertissement, bien douloureux. C'est les petits mots, les petites phrases de l'Évangile, à la fin de l'arrestation, au jardin des Oliviers, alors tous s'enfuirent. Tous. Tous les apôtres se sont enfuis comme des lapins au soir du jeudi saint. Vous nous rappelez quoi? Vous nous rappelez bien sûr la toute-puissance du bon Dieu, mais aussi notre propre faiblesse. Nous aussi, on fera les mêmes choses. Hein. Nous aussi, on fera les mêmes choses. Quand on explique ça aux enfants, ils sont scandalisés. Combien de fois on a vu les enfants, quand on explique la passion, les enfants réagissent en disant « Eh, vous savez, moi, si j'avais été là, ce ne serait pas passé comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. » Ah oui, croyez ça, vous. Puis on explique aux enfants. Et puis ils comprennent. Puis quand on leur explique bien, ils comprennent. Ils disent « Oui, finalement, je me demande si je ne me serais pas enfui avec les autres. » Je dis « Oui, vous avez peut-être couru même plus vite que Saint-Pierre. » C'est le roi Clovis qui se prépare au baptême avec Saint-Rémy, vous connaissez cette phrase extraordinaire. Et puis Saint-Rémy préparait Clovis, qui était un païen, l'époux de Sainte-Clotilde. Et il préparait au baptême. Et quand il expliquait la passion, la fuite des apôtres, Clovis s'est levé d'un bond, tapé le poing sur la table en disant « Que n'ai-je été là avec mes francs ?» Ben oui. Mais non, des pauvres misérables. Alors, il y a un troisième point sur lequel je voudrais insister parce qu'il me semble extrêmement important. On l'a dans l'Épître aux Galates d'aujourd'hui. L'Épître aux Galates, saint Paul nous dit que le Christ nous a rendus libres. Le Christ est l'unique personne qui va nous donner la véritable liberté. On nous parle, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, alors que le gouvernement ne cherche qu'une seule chose, c'est de mettre tous les Français en esclavage, eh bien, le gouvernement nous parle tout le temps de liberté. Et plus ils veulent nous mettre dans l'esclavage, et plus ils nous plongent dans l'esclavage, à commencer par l'esclavage sanitaire dans lequel on est en plein, plus ils nous parlent de liberté. C'est inscrit sur toutes nos pièces de monnaie. Liberté, égalité, fraternité, tu parles. Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Qu'est-ce que c'est que cette égalité? Qu'est-ce que c'est que cette fraternité? C'est un poison. Le triple poison que nous donne la Révolution. Vous êtes libre. Ah, on est libre, oui. Et de quoi faire? Vous êtes libre d'aller en enfer. Plus vite possible, on va même vous pousser pour vous y aller encore un peu plus vite. C'est ça la liberté du monde moderne. Et cette liberté du monde moderne, c'est une licence. Cette liberté du monde moderne, c'est une licence justement qui nous pousse à nous enfermer dans le péché. Au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la fraternité, on amène tous les Français en esclavage. Tous les Français en esclavage. Et comme il faut comprendre ces choses-là, il faut les méditer. Il faut les méditer. Il y a une définition de la liberté que j'aime beaucoup. C'est chez le pape Léon XIII, il dit que la liberté, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Magnifique définition. Aussi celle de saint Thomas qui est très connue. La liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre une fin. Mais je crois que je préfère encore la définition simple de Léon XIII qui est magnifique. Pape Léon XIII, la faculté de se mouvoir dans le bien. Dire, je suis libre quand j'ai le pouvoir de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre sa loi. C'est ça qui me donnera la véritable liberté. Pourquoi? Parce que la liberté révolutionnaire, la liberté 1789, la liberté que nous propose le gouvernement aujourd'hui, c'est quoi? C'est la laideur, c'est la confusion, c'est l'obscurité, c'est la tristesse. Et saint Paul s'exclame, et cette exclamation est toujours valable aujourd'hui, le Christ vous rendra libre. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique personne qui nous rendra libre, parce qu'il nous donne la véritable liberté. C'est ça la liberté. Et c'est triste de voir que quand on essaie d'expliquer ça à des païens, la plupart vont nous dire, mais dans l'Église catholique, vous n'êtes pas libre. Vous avez des lois, vous avez des commandements de Dieu que vous n'avez jamais vus. Et puis vous êtes obligé de suivre bêtement ces commandements, en plus des commandements de l'Église. Ils ne se rendent même pas compte. Quand on me dit ça, ça arrive régulièrement que les gens nous sortent ça. Ils me disent donc, ouvre un peu les yeux. Aujourd'hui, on nous parle de liberté tout le temps. Et vous reconnaissez que vous êtes tous en esclavage. L'esclavage des banques, l'esclavage au gouvernement, l'esclavage pour tout détruire. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique personne qui va nous aider, nous rendre la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? Un homme libre, c'est quelqu'un qui est capable de dire non aux concupiscences. Quelqu'un qui est capable de lutter contre l'orgueil, contre la concupiscence des yeux, contre la concupiscence de la chair, et quelqu'un qui a trouvé la véritable liberté. Donc où sont les hommes les plus libres? Où sont les femmes les plus libres? Quels sont les hommes et les femmes les plus libres du monde moderne? Les hommes et les femmes les plus libres du monde moderne sont ceux qui sont liés à Dieu, par les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Parce qu'avec le vœu de pauvreté, ils arrivent à juguler la concupiscence des yeux. Avec le vœu de chasteté, ils arrivent à juguler la concupiscence de la chair. Et avec le vœu d'obéissance, ils arrivent à juguler l'orgueil. Et donc, au lieu de parler à nos enfants constamment de liberté, d'égalité, de fraternité, les trois poisons révolutionnaires, qu'est-ce qu'il faut dire ? À la place de l'égalité, il faut le contrepoison, le poison de l'égalité. Ce contrepoison de l'égalité, c'est quoi ? C'est l'obéissance. Le contrepoison de l'égalité, c'est quoi ? C'est la justice. Et le contrepoison de la fraternité, c'est la charité. Donc la charité de Dieu, la charité que l'Église catholique nous a toujours proposée, est l'unique chose qui va nous rendre vraiment libres. On est entouré par des gens qui nous parlent de liberté à longueur de journée et qui veulent nous précipiter dans l'esclavage. Au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ semble esclave en portant sa croix. Le châtiment de la crucifixion, rappelez-vous, c'est le sacrement des esclaves. Donc on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ nous maintient dans l'esclavage. Et en portant sa croix, notre Seigneur Jésus-Christ, au moment précis où il va mourir le Vendredi Saint, sous la croix, écartelé entre les clous, à cet instant précis, il nous rend véritablement libres. Et c'est cette liberté qui doit être pour nous une source de joie extraordinaire. Souvent, les gens nous disent, j'y comprends, hein, monsieur l'abbé, plus grande raison de se réjouir aujourd'hui, tout s'écroule. Tout s'écroule sauf le calvaire. Rappelez-vous la devise des Chartreux. Le monde tourne, la croix demeure. Seule chose qui demeure, c'est justement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous suivons une doctrine, nous suivons des commandements de Dieu, nous suivons le credo, nous suivons les... Nous avons tout ce qu'il faut espérer aussi par le Notre Père. Ces choses ne changeront jamais, parce que Dieu ne change pas. Donc les commandements que Dieu nous a donnés il y a 2000 ans sont toujours valables aujourd'hui, et seront toujours valables dans 2000 ans. D'ici 2000 ans, les républiques, elles auront le temps de passer, de s'écrouler. Comme disait le cardinal Pie, les républiques qui ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas le temps de s'occuper de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas le temps de durer. Elles ne durent pas parce qu'elles s'appuient sur des choses qui passent. Nous nous appuyons sur des choses qui ne passent pas. Et encore une fois, ces convictions, les convictions de la foi catholique, doivent mettre en nous justement cette paix, cette joie, cette lumière et cette beauté. Une fois qu'on a compris ces choses-là, alors à ce moment-là, on est prêt à tout accepter. Parce que le prix à payer est bien peu, finalement, par rapport au résultat qui nous attend, par rapport au cadeau que notre Seigneur Jésus-Christ a préparé pour chacun d'entre nous. Vivre en état de grâce. Et c'est ça le drame de l'Église de Vatican II. Le drame de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir coupé l'homme de sa fin surnaturelle. Au lieu d'obliger les hommes à regarder, lever les yeux en disant, vous êtes dans la boue aujourd'hui, levez les yeux, regardez le calvaire, il y a la croix mène à la résurrection, et la résurrection mène à l'ascension mène au ciel. Et là-haut, il y a quelqu'un qui ne change pas, qui ne changera jamais parce qu'il est Dieu, et qu'il a créé une église, une sainte catholique et apostolique, qui ne changera jamais. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, est en Dieu, est inaltérable. Et je vous donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais au Mexique, en Amérique latine, dans le sud du Mexique, des milieux très très pauvres. J'avais remarqué que même dans ces milieux très pauvres, dans ces petits villages, il y avait, même dans les villages les plus pauvres, il y avait l'église. Et dans ces églises, parfois, dans des endroits extrêmement reculés, sans électricité, sans pratiquement sans eau courante, sans rien du tout, ils avaient au-dessus de l'autel des retables qui dataient du XVIIe, du XVIIIe siècle, même du XIXe, des retables qui étaient d'une extraordinaire simplicité, d'une extraordinaire beauté. Et en général, ils étaient dorés à leur fin. Et ces gens des villages qui étaient d'une pauvreté invraisemblable. Ils mangeaient que des haricots et de la semoule, c'est tout ce qu'ils mangeaient. La polenta et des haricots, c'est tout ce qu'ils avaient à manger. Ils avaient au moins la richesse de leur église. Et quand je passais dans ces petits villages, ils me montraient avec joie leur richesse. Regardez, monsieur l'abbé, regardez le burrata, le burrata que nous avons. Mais qu'est-ce qu'a fait l'église de Vatican II? Elle a enlevé les rétables. C'est la richesse de l'église, il paraît. Et après, elle a mis quoi? Une table de cuisine. Et les paysans disaient, le curé moderne, il nous a enlevé l'unique richesse qu'on avait. On a toujours que des haricots à manger, de la polenta. Au moins, avant, on avait un magnifique rétable. C'était toute notre richesse. Ça, elle est partie. Maintenant, une table de cuisine devant, à la place du rétable. Et c'est ça qui doit justement nous donner cette joie extraordinaire. Cette joie que Dieu seul peut donner. Cherchez pas la paix à quelque chose du monde. Ce n'est pas la télévision, Internet qui vont vous donner la paix. Pas le gouvernement qui va nous donner la paix. L'unique personne capable de nous donner une paix durable, c'est celui qui a dit « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie ». C'est celui-là qui nous donne la paix. Alors, mes bien chers frères, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de nous aider à ne jamais, jamais, jamais nous décourager, précisément parce qu'il est Dieu. Et passons par, bien sûr, sa mère. Vous savez, c'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa mère. Et il n'a pas placé n'importe où sa mère. Où est-ce qu'est la Sainte Vierge? Il l'a placée au pied de la croix. Elle n'est pas effondrée au pied de la croix. Stabat mater. Juxta crucem dolorosa. Elle se tenait debout. Elle est debout parce qu'elle porte son divin fils. De même qu'elle a apporté au monde, le jour de Noël, son divin fils pour le donner au monde. Elle va le porter pendant 33 ans de sa vie. Elle va encore le porter sur la croix. Pour ça qu'elle se tient debout au pied de la croix. Et c'est pour ça que le bon Dieu a voulu qu'elle soit médiatrice de toute grâce. Qu'elle soit co-rédemptrice du genre humain. On sait encore, dans l'église de Vatican II, il ne faut pas parler de Marie médiatrice de toute grâce. Elle tape des boutons sur le bout du nez immédiatement. Rappelons-nous, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Bon, pour arriver à lui, il faut passer par sa mère. Alors, utilisons cette deuxième partie du carême. Nous arrivons maintenant très vite à la semaine sainte. Utilisons cette deuxième partie du carême justement pour remplir notre cœur de cette paix, cette joie, cette beauté, cette lumière. Pour que nous ne nous décourageons jamais, parce que notre Seigneur Jésus-Christ et son Église nous amène la véritable liberté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.